La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots, qui s'intéresse aujourd'hui à toute une grande partie de l'humanité, un tout petit peu plus de la moitié, les femmes. Femmes, que de mots pour vous dire. C'est le titre de cet ouvrage que Franck Laurent consacre donc à ce sujet, qui est paru aux éditions Bartilla et qui est sous-titré « Un dictionnaire inattendu ». Bonjour Franck Laurent.
Bonjour.
Merci de venir, tout seul mais avec toutes ces femmes qui vous accompagnent.
Alors, beaucoup.
Quand on lit en effet ce dictionnaire inattendu, la première chose qui vient à l'esprit, et vous vous en expliquez d'ailleurs d'une certaine façon, c'est que c'est un livre sur, non pas sur les femmes d'ailleurs, mais sur la façon de les nommer, sur la façon de les désigner, et peut-être sur la façon de les penser, mais qui désigne et pense les femmes comme ça, les hommes. Il est certain que, de façon très générale, tout le vocabulaire et l'idéologie du vocabulaire est une idéologie masculine. Comment vous vous êtes débrouillé avec ça, justement, pour faire votre dictionnaire?
Alors d'abord, c'est une surprise, parce que, en fait, je suis parti d'une idée, une interview que Tournier avait donnée à Lévi-Strauss.
Oui, vous la mentionnez d'ailleurs.
Ouais, oui, il avait demandé, alors, si on ne possédait plus d'une civilisation qu'une grammaire et un dictionnaire, qu'est-ce qu'on saurait de cette civilisation? Et Lévi-Strauss a été très brutal dans sa réponse, il a dit tout. Alors j'ai pris différents dictionnaires, j'ai pointé, je suis exclusivement consacré aux substantifs, hein, pas aux adjectifs. Les adjectifs, c'est facile, ça qualifie. Le substantif, comme son nom l'indique, ça indique la substance. Et puis, oui, j'ai retrouvé plus de 300 mots, 300, 350 mots qui désignent les femmes. Certains nombres sont très élogieux, courtois, d'autres le sont beaucoup moins. Et en effet, ces mots, la plupart du temps, ce sont des mots d'hommes.
Ben oui, il y a toute une idéologie masculine qui va se trahir et se traduire dans cette façon de nommer les femmes.
Oui.
Dans votre dictionnaire, on sent très peu des femmes qui se nomment elles-mêmes.
Non, très peu. Je pense que ça est en train de changer, mais en tout cas, on est là dans l'héritage, il faut le dire, d'une société qui est patriarcale, hein.
Patriarcale à peu près toujours et machiste extrêmement souvent.
Et machiste extrêmement souvent, très souvent hyper violente, hein. C'est-à-dire que on s'aperçoit que les périodes où il existe historiquement une grande violence sont suivies généralement de périodes où les mots sont très durs pour les femmes. Et en revanche, dans les périodes où les tensions s'apaisent, alors naissent des courants tout à fait étonnants. La courtoisie au XIIIe siècle, la préciosité au XVIIe siècle, un certain féminisme au XXe siècle, où alors là, les femmes réclament justement qu'on les appelle autrement. En fait, les femmes réclament tout simplement qu'on leur parle. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les périodes d'histoire où existe la guerre, la violence, où la femme est considérée soit, alors quand c'est la violence, soit comme instrument du soldat, on va le dire, ou un instrument de reproduction parce qu'il faut fabriquer d'autres soldats, ou alors dans des sociétés hypercapitalistes, par exemple comme le 19e siècle, comme la garante d'un ordre qui va permettre une prospérité économique, mais à ce moment-là, elle est la gardienne du foyer, des enfants, etc., etc.
Oui, parce que le destin de la femme au 19e siècle, dans la littérature et dans la société même,
très
et
dur.
De la femme bourgeoise, c'est le mariage.
Oui, c'est le mariage.
De toute façon, il n'y a rien d'autre.
C'est très dur. Je pense que si on avait une machine à remonter le temps et qu'on puisse choisir où aller, je déconseillerais vraiment aux femmes de taper 19e
vous,
siècle.
Oui, oui, et vraiment. Peut-être à vous-même aussi, d'ailleurs.
Bah oui, aussi, oui. mais oui, parce que si vous voulez, au 19e siècle, il y a la mère de famille, l'épouse, la maîtresse de maison.
Et sinon, dans la
prostitution, ouais. Les maîtresses. Ou alors, paradoxalement, dans des femmes qui peut-être n'en sont presque pas, cet idéalisme romantique, où il y a certaines femmes qui sont désincarnées, et qu'on va porter, n'est-ce pas, au nu de l'inspiration, un Baudelaire, par exemple, avec Madame Sabatier. mais une Madame Sabatier qui va dire un moment à Baudelaire, j'en ai assez, moi je suis
c'est l'Égérie tant qu'il ne la consomme pas.
Tant qu'il ne la consomme pas.
Et je reprends les mots extrêmement crus de Baudelaire, parce que c'est vraiment ça qu'il dit. Dès la première nuit d'amour passée, vous le citez vous-même, c'est plus que c'était.
Il lui écrit une lettre très dure où il lui dit qu'elle est revenue une femme.
Elle est redevenue une femme, justement. Ouais. Ce qui prouve bien que, justement, d'un côté, on a la violence, parfois la grossièreté, de l'autre, la courtoisie ou la galanterie, mais tout ça, très souvent, objectise les femmes.
Objectif les femmes.
Les transforme en objet.
En objet, oui.
En objet de désir, en objet victime, mais en objet.
C'est ça. Alors que ce qu'il faudrait, et ça existe, grâce à Dieu, c'est la vraie relation du je au tu, du sujet à sujet. C'est là d'ailleurs que il existe ce qu'on appelle un couple, des couples heureux. C'est des couples qui se disent je et tu, et où la femme n'est pas objectivée, justement. Et ça existe dans une relation. Mais dès que cette relation est détériorée, alors la tendance de l'homme, c'est de ravaler la femme. Et très souvent de l'animaliser. Il y a énormément de termes.
Absolument, ça on va y revenir. Mais vous disiez il y a un instant, Franck Laurent, que le XXe siècle, enfin vous le disiez, et en même temps c'est présent dans votre livre, le XXe siècle n'est pas le plus productif, et que la plupart des mots que vous avez relevés sont nés dans les siècles antérieurs.
Oui, alors sans doute parce que le français offre déjà un passé très riche, donc il y a beaucoup de termes dont on peut se servir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se transformer en profondeur au XXe siècle, qui n'ont peut-être pas encore trouvé...
Mais on aurait pu penser justement que ces transformations faisaient naître des mots nouveaux. Oui. C'est pas tellement le cas.
Et non, et parce que je pense que la littérature féminine est en train de se développer, et que j'espère qu'il va y avoir des femmes vont trouver des mots pour les femmes aussi. Mais vous voyez, par exemple, au XXe siècle, il y a un mot qui me chagrine beaucoup en ce moment, c'est le mot « meuf ». C'est un peu le mot que on a inventé ces derniers temps, il est vraiment dans toutes les bouches. Et quand on réfléchit profondément, le mot « meuf », c'est un mot, je trouve, moi, assez dangereux. C'est un mot de Verlan. Alors, vous savez, le Verlan, c'est quand même un langage crypté, hein. C'était le langage des bagnards, pour ne pas être compris des geôliers. Et donc, quand vous dites d'une femme, vous l'appelez même gentiment, même sous forme un peu de camaraderie, à la meuf, je me demande si ça signifie pas quand même une incompréhension, ou qu'il y a dans nos sociétés quelque chose qui ne se produit pas entre hommes et femmes dans certains endroits, certains milieux.
Meuf, meuf, meuf,
bon, bon, bon,
meuf.
Depuis que je suis petit, j'aime les
bonnes meufs.
Jour et nuit, je pensais
bonnes meufs.
Mais j'ai jamais chopé
de bonnes meufs.
J'ai jamais compris les
bonnes meufs.
J'avais pas le niveau pour les
bonnes meufs.
J'ai jamais su plaire aux
bonnes meufs.
Alors je détestais les
bonnes meufs.
J'ai même insulté les
bonnes meufs.
Dans des chansons sur les
bonnes meufs.
Qui m'ont rendu connu comme plein
bonnes meufs.
Mais je crois que je suis devenu une
bonnes meufs.
On me parle dans la rue comme une
bonnes meufs.
On me suit dans la rue comme une
bonnes meufs.
Je prends pas le bus la nuit comme une
bonnes meufs.
Je suis plus dans la vraie vie comme une
bonnes meufs.
On me parle et je me méfie comme une
bonnes meufs.
Payer des verres comme une
bonne meuf.
On prend mon numéro comme une
bonne meuf.
Je reçois plein de textos comme une
bonne meuf.
Je reçois plein de cadeaux comme une
bonne meuf.
Je fais plein de photos comme une
bonne meuf.
Je trouve facilement du taf comme une
bonne meuf.
Je fais gaffe à mon image comme une
bonne meuf.
Alors je fais des régimes comme une
bonne meuf.
Et je compte les calories comme une
bonne meuf.
Je fais aussi du sport comme une
bonne meuf.
J'ai des beaux vœux comme une
bonne meuf.
J'arrive à rentrer en boîte comme une
bonne meuf.
Où je me fais draguer par des
bonne meuf.
Qui m'invite à danser comme une
bonne meuf.
Maintenant je pourrais baiser plein de
bonne meuf.
Sauf qu'entre temps j'ai trouvé la
bonne meuf.
Donc je m'en bats les couilles des
bonnes meufs.
Adieu les
bonnes meufs.
La danse des mots, toujours avec vous, Franck Laurent, à propos de ce livre édité chez Bartillat qui s'appelle « Femme, que de mots pour vous dire ». Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de nous confier. Vous dites que, justement, le mot « meuf », il vous plaît pas beaucoup. C'est ce que j'ai compris.
Oui, enfin...
Ouais, il vous plaît pas. Je pense d'ailleurs qu'il a changé...
Qu'il disparaîtra.
Je suis pas sûr. Enfin, il disparaîtra peut-être.
Oui, oui.
Mais c'est l'un de ces mots
oui.
dont vous disiez justement qu'il vient du Verlan, hein,
oui,
c'est
oui.
fameux, donc, meufa, et
oui,
ça devient
oui.
meuf. C'est un mot qui s'est beaucoup généralisé et qui a changé, je dirais pas de sens, mais qui a changé de silhouette, qui a changé de physionomie quand on le dit aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple tout récent, hein, ça date d'il y a 3-4 jours, et c'est un exemple personnel. J'ai invité une amie à dîner, une femme, et qui parlait d'un autre convive qui devait venir, et qui me dit tout simplement, oh, je crois qu'il viendra avec sa meuf. Et ça m'a étonné. C'était dit de façon amicale mais relativement neutre, c'était dit par une femme, et justement, il n'y avait pas de charge affective là-dedans. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est un mot qui s'est relativement généralisé, il reste familier, il reste argotique, mais il a pas du tout le même écho que celui qu'il pouvait avoir au début des années 80 quand il est apparu.
Oui. Alors à ce moment-là, on pourrait dire, si je suis votre pensée, que c'est un peu ce qui s'est passé avec le mot nana. Le mot nana au 19e siècle signifiait la prostituée, et puis il est devenu bon enfant. Une nana, les nanas, etc.
C'était le mot des années 60-70.
Oui. Mais il date de Zola, il date du 19e, donc il s'est un peu atténué, il est devenu un mot un peu camarade, oui. Mmh. Oui.
Alors, il y a également une chose, pas, oui, c'est vrai, il y a également une chose qui m'a étonné dans votre livre, Franck Laurent, c'est que vous mettez vos goûts très en avant, ce qui est tout à fait le privilège de tous les auteurs, mais vous dites peu que ce sont vos goûts. C'est-à-dire que de temps en temps, on a l'impression que vous souhaiteriez que vos goûts soient les goûts de tout le monde, ou que ça soit une vraie réalité. Quand vous dites en particulier, et vous le dites extrêmement souvent, voilà un très joli mot, voilà un mot qui est très laid. Oui. Vous parlez par exemple de demoiselle, en disant que il y a des gens qui souhaiteraient que l'appellation mademoiselle disparaisse, et vous dites c'est dommage parce que c'est un très joli mot. Les raisons qui font que certaines personnes souhaitent qu'on n'appelle pas quelqu'un mademoiselle n'ont aucun rapport avec sa beauté ou sa laideur supposée. C'est des raisons sociologiques parce qu'il n'y a pas de symétrie entre la façon d'appeler un homme et la façon d'appeler une femme. Oui. C'est pas une question de beau ou de laid, voyez.
Oui. Alors, ceci, c'est peut-être que aujourd'hui on vit dans le monde binaire de l'informatique et que c'est pratique pour cocher des cases. Monsieur, madame, c'est plus simple de rajouter une troisième case.
Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que très souvent, vous dites ce mot est beau, ce mot est laid. Vous ne dites pas je trouve ce mot joli. Je trouve ce mot.
C'est une ellipse de langage. Mais c'est vrai.
C'est une ellipse qui en dit beaucoup. Oui. Vous voyez.
J'aime beaucoup ce mot. Oui. J'aime beaucoup ce mot parce que je pense que il correspond à une période de latence chez la femme qui me paraît très belle et qui est une période de, comment dirais-je, germination, voilà, qui est intéressante, et de respect. Et je pense que ce mot demoiselle prépare au respect fondamental qu'on doit avoir avec la femme et avec la dame.
Oui, mais c'est de toute façon un mot qui a changé de sens, hein, puisque en moyen français, voire en ancien français, il ne désigne pas du tout une femme non mariée. Il désigne une femme mariée, mais qui est plutôt une bourgeoise ou une femme de petite noblesse.
Voilà,
quoi.
C'est-à-dire
que c'est moins que la dame, c'est en dessous de la dame. Elle est mariée.
Oui, mais après il a pris un mot justement, c'est un peu anobli en se démocratisant paradoxalement ce mot. Et puis, moi je trouve beaucoup de charme. J'ai un peu désuet, hein, peut-être, mais je trouve beaucoup de charme. Voilà.
C'est un mot très à la mode.
Oui, c'est un mot très à la mode.
Ah ouais, parmi les jeunes gens, mademoiselle, c'est même parfois un peu intrusif. Ah, même mademoiselle.
Ça peut l'être.
Ça le devient.
Oui. Mais c'est un mot pour lequel, vous voyez, je me battrais pour que l'on conserve dans la langue.
Vous pourriez vous battre également pour le mot dame, parce que ils ont des évolutions un petit peu parallèles, ces deux mots, demoiselle et dame.
Oui. Dame, oui. Alors, dame, c'est un mot, alors, vraiment très important, je trouve, parce que il est né au XIIIe siècle, juste au moment où, après l'hyperviolence du féodalisme, dans les cours de Champagne, d'Aquitaine, etc., les femmes ont exigé des hommes un autre comportement. Les femmes ont exigé des hommes qu'en matière d'amour, on commence par parler.
Oui. Pas n'importe quelle femme, d'ailleurs.
Oui,
les femmes de la haute société.
Oui. Mais ça, c'est toujours très complexe
bien sûr.
Parce que, évidemment, souvent, les transformations dans une société se passent et après, on peut espérer que ça se démocratise.
Oui. Alors, il y a des mots qui désignent des femmes qui sont parfois des féminins. Des féminins de mots qui existent au masculin, avec une symétrie qui n'est pas garantie.
Pas garantie.
Alors, il y en a qu'on connaît, bien sûr, et puis il y en a qui sont vraiment asymétriques, presque inverses, hein, garce pour gars, ou garçonne, qui est encore différent.
Oui.
Mais vous notez le moins connu, bachelette.
Oui, la bachelette, c'est une altération de bachelier. C'était en fait la servante, et puis c'est devenu la jeune fille gracieuse et gentille. Alors ça, c'est un terme qui est revenu très désuet, là, pour le coup.
Elle est de la race des femelles. Elle est du cercle. Carré, non. Comme la lune, resplendit, Sugar, même le jour, mon soleil, comme un dieu, a-t-il pu créer une eau si jolie que tu? Miel, yeah. Et quand je la lèche, je suis le roi des abeilles. Bien sûr, c'est une sorcière bleue, une acrobate, un médium, comme un dieu. A-t-il pu créer une eau si jolie créature?
Femme, que de mots pour vous dire, c'est le titre de votre livre, Franck Laurent, dont on parle aujourd'hui donc dans cette danse des mots, avec des noms pour désigner les femmes qui montrent que de temps en temps, même s'il y a un solide machisme à la base de l'invention de ces mots, les femmes, ça fait peur. Et ça fait peur aux hommes. Et ça a toujours fait peur aux hommes. De temps en temps, on les nomme pour amadouer, non pas les femmes, mais sa propre peur. Un mot comme Amazon, par exemple.
Ah oui. Ah,
d'où vient-il?
Amazon, c'est-à-dire que ça remonte certainement à des sociétés très archaïques, où il y a un combat entre hommes et femmes, et où des femmes ont décidé de se retrancher d'une société qu'elles jugeaient peut-être trop patriarcale. Mais il faut noter que dans ces sociétés matriarcales, il y a énormément de violence aussi. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les sociétés matriarcales peuvent être très violentes. Parce que les femmes doivent se défendre, parce que les femmes tuent les jeunes mâles qui naissent, parce que, etc., etc., etc.
Et le Alors, mot, elles Amazon...
sont sans arrêt en conflit avec les Grecs, n'est-ce pas? Alors, qui veulent leur imposer peut-être une certaine vision de la femme, mère, la femme au foyer, ça. Alors que l'Amazone, c'est tout le contraire, c'est la femme libre, c'est la femme à cheval, c'est la femme qui est guerrière. C'est
et
la
en
femme
plus, qui... ce sont des femmes qui appartiennent à des tribus probablement légendaires, mais qui sont des tribus exclusivement féminines.
Exclusivement féminines, ouais. Puisque on se débarrasse des enfants mâles à la naissance.
Et de temps en temps, on fait une razzia pour la reproduction.
Oui. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que elle préfère choisir des hommes un peu estropiés. Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas fait la guerre et qui, par conséquent, n'ont pas perdu leur force, inutilement. Ils sont vraisemblablement, j'étais pas là pour le dire, de meilleurs amants.
Alors, avec l'Amazone, on revient donc à la mythologie. Il y a un certain nombre de mots qui désignent des femmes et dont l'origine est à chercher dans ces mythologies. On a parlé de l'Amazone, on pourrait aussi bien parler, même si son sens est très différent, de l'Égérie.
Oui, l'Égérie, oui, c'est celle qui
inspire. Alors, dites-nous un petit peu qui c'est l'Égérie. Alors, La première Égérie. C'est une nymphe. Hein.
Une nymphe, oui. La successeur de Romulus, et c'est le roi Numa Pompilius qui donna à Rome sa religion et ses lois, et donc selon la légende, il ne prenait aucune décision sans avoir consulté une nymphe des sources, qu'on appelait une camène, et qui porta le nom donc d'Égéria, mot d'origine probablement étrusque.
Alors, le mot d'Égérie...
Celle qui permet de prendre la décision juste.
Oui.
Et après, ça a été repris par Balzac pour désigner l'inspiratrice d'un artiste.
Ouais. Et c'est Balzac qui a vraiment porté ce mot sur les fonts baptismaux pour lui donner le sens qu'on lui connaît aujourd'hui.
Oui, avec la puissance d'un écrivain comme Balzac, oui. Et donc c'est resté dans le langage encore actuel, là.
Alors, on
a un Balzac
mot,
qui prend... Ça peut lui donner du...
Ça reste,
de la puissance.
Il y a Balzac, il y a de façon un petit peu différente, Cervantes.
Cervantes.
On lui doit aussi...
Ah, beaucoup de mots, oui.
Et oui, pas et mal. Oui. Lesquels?
Alors, il y a la Marie Thorne, qui est la servante pas très belle, mais qui connaît bien les hommes. Et puis, bien sûr, il y a la Dulcinée. C'est-à-dire, ça c'est très amusant, la Dulcinée, parce que c'est la construction mentale, vraiment, d'un mythe féminin littéraire. Parce que c'est pure imagination. la réalité de cette femme, Dulcinea del Toboso, est loin d'être ce que...
Alors, qui est au départ, cette Dulcinea?
C'est une servante d'auberge, oui. Et donc, c'est une femme très commune, mais qui va, par tout le travail, évidemment imaginaire, de Don Quichotte, devenir la femme de ses rêves, et surtout la femme qu'il sert, parce que l'exploit chevaleresque n'a de sens que s'il est accompli pour une femme. Donc, à partir du moment où Don Quichotte imite, hein, c'est la grande théorie de l'imitation, hein, René Girard en a beaucoup parlé de ce Don Quichotte, c'est à partir du moment où il imite les romans de chevalerie, où il est déphasé même par rapport à la réalité actuelle, il va prendre les moulins pour des géants, et il va également choisir une femme, et puis il va la transformer en dame, c'est-à-dire la domina, hein, celle qui domine, et celle pour qui le chevalier est capable de tous les exploits. Et ça, c'est resté dans le langage courant. Oui,
oui, une Dulcinée.
Une Dulcinée, oui.
C'est plus courant même qu'une Maritain. Hein,
oui.
Ça, hein. Avec un côté un peu ironique. Quand on dit sa Dulcinée, on se moque.
Aujourd'hui, maintenant. Ouais.
Et même si on parle de sa Dulcinée à soi, c'est ironique aussi.
Oui, c'est peut-être même aujourd'hui pour dire que c'est une histoire qui n'ira peut-être pas si loin que ça.
Oui, la Dulcinée, c'est pas la dame de ses pensées. Contrairement à ce que pensait Don Quichotte. Alors, revenons à ce 19e siècle, même si vous ne l'aimez pas beaucoup, parce que malgré tout, c'est le siècle qui est celui des transformations et qui amène un certain nombre de femmes à plus de liberté, même si cette liberté elle est chère payée et même si de temps en temps elles sont regardées un petit peu de travers, à la fois par les hommes et par le lexique qu'ils utilisent. Alors, il y a quelques mots qui riment d'ailleurs et qui sont grisette, midinette, petit peu plus tard, et cousette.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ces jeunes femmes-là?
Ce sont des petites jeunes femmes qui ont peut-être déjà un début d'indépendance, qu'elles ont un travail. Alors c'est un travail généralement mal payé.
Alors la cousette, on devine.
Oui.
Cousette, elle fait de la couture.
Elle fait de la couture, elle est honnête.
Donc et quand vous dites « elle est honnête », ça veut dire qu'elle ne vend pas ses charmes.
Ça veut dire
qu'elle ne
vend pas...
Vous reprenez une image très courante, une femme honnête. Ça n'existe pas du côté masculin. On ne dit pas un homme honnête pour dire un homme fidèle.
Non, mais c'est une femme honnête. Qui arrive à gagner sa vie par elle-même et qui n'a pas besoin de se prostituer, par exemple. Ou de prendre un amant ou un galant qui l'entretiendrait.
Et la grisette, c'est un petit peu ça aussi.
Oui, alors la grisette, elle est moins... elle joue sur les deux tableaux. Les grisettes, elles ont un travail, mais elles arrondissent un peu...
La grisette, c'est peut-être une femme plus légère.
Plus légère, oui, beaucoup plus légère. Ouais. Puis la trotteuse aussi, parce qu'elle va faire les courses, elle va porter les...
Et avec cette image de la trotteuse, on n'est pas loin de la prostitution.
Ah,
parce
que
très souvent, la prostitution, c'est justement les femmes qui marchent.
Les femmes qui marchent, Alors le vocabulaire de la prostitution au 19e siècle...
Il y faudrait une danse des mots entière.
J'ai fait court parce que c'était lassant, mais j'ai donné quand même les termes, il y en a une cinquantaine. Et avec... un génie métaphorique étonnant.
Et puis, on a tous les noms d'animaux dont vous parliez. Et ça, c'est vrai qu'on voit encore là une inspiration extrêmement masculine qui prête des oripeaux animaux aux femmes.
Aux femmes, oui. Bon, j'ai ma petite explication, je reviens souvent à ce texte merveilleux qui est celui de la Genèse.
La Genèse qui est donc le premier livre de la Bible.
Oui, dans le récit de la création, les animaux sont créés au matin du sixième jour et l'homme au soir du sixième jour. Le septième jour, c'est le jour du sabbat, c'est le jour de Dieu. Donc l'humain est près du spirituel, l'animal un peu moins. Et alors, je pense que il y a cette séparation, n'est-ce pas, cette distinction qui est voulue entre l'homme et la femme, et que c'est l'homme qui se reconnaît dans la femme et la femme dans l'homme. Si cette reconnaissance ne se fait pas, si cette relation ne se fait pas, eh bien, il y a une tendance terrible chez les hommes de ravaler immédiatement la femme au matin du sixième jour et de lui donner tous les noms d'animaux.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a... Même si c'est de façon supérieure, et c'est vrai, il y a quand même beaucoup de noms d'animaux qui sont des noms élogieux pour la femme.
Oui, ils sont des noms élogieux. Alors, j'y perçois parfois une certaine ambiguïté, jusqu'à quel point le mot gazelle n'est pas une façon d'apprivoiser pour après mieux dévorer. Le mot biche, moi, parfois, me paraît aussi parfois ambigu. Ma biche est souvent... voilà. Mais en revanche, il y a des...
Condescendant, d'une certaine
façon. Ça peut être condescendant.
Oui, absolument. Oui. Quand on dit biche, c'est que soi-même, on se sent...
Les noms d'oiseaux sont très ambigus. On peut avoir traité une femme de poule, ou d'oie, ou de dinde...
C'est
parce que ce sont des animaux qui ne volent pas ou pas bien, je ne sais pas. En tout cas, en revanche, alors quand
on a
une femme de cygne, voilà l'alouette, une femme fragile et forte, Antigone est une alouette, par exemple, Jeanne d'Arc est une alouette. Et là, on a en effet, on a cette ambiguïté, cette ambivalence du terme animal.
Et puis on a la colombe.
Ah, la colombe, oui, qui symbolise la pureté, la paix,
La libellule.
Et la libellule, la légèreté, la danse, il y a quelque chose de, femme une libellule, il y a quelque chose que, une danse aérienne, Et il y a des très belles métaphores sur les...
Écoutez, merci beaucoup, Franck Laurent, pour ce femme que deux mots pour vous dire, ce dictionnaire inattendu, qui est paru chez Bartilla et dont vous nous parliez dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI. Valentine Bracelet, Lucie Boutlou, Yvan.
Merci à vous.
De Rochechouart jusqu'à Ménilmuche, la rue de Lappe à la rue de la Gaîté, il n'y a pas une môme dans tout Pantruche qui avec la mienne puisse lutter. De tous les côtés quand on l'épluche, on ne trouve rien à lui reprocher. C'est un oiseau rare que roi des vénards j'ai eu le bonheur de dénicher. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux. La Greta Garbo peut aller cirer son chapeau. Ils n'en ont pas à Liverpool, à New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son pullover vert vous mettent la tête à l'envers. Elle a les jambes faites au moule, des cheveux fous frisés partout et tout et tout. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Marguerite de Bourgogne auprès d'elle n'avait que Nibes comme tempérament. Il faut l'entendre quand elle appelle son petit momo au grand moment. Son corps frissonne d'une façon telle que la maison en tremble également. Et ça vous explique les secousses sismiques dont les journaux parlaient récemment. Et regardez ma peau, vous en verrez à vous. C'est baiser moelleux, font dresser les cheveux. C'est baiser profond, vous font sauter jusqu'au plafond. Il faut la voir quand elle roucoule et qu'on l'entend du fond de facile crier chérie. Oh, si vous la voyez, vous me la chipperiez. Mais vous ne connaîtrez pas ma poule.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.